Parole protestante sur RCF Anjou.
Bonjour chers auditeurs, c'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Daniel et Bernard Delépine. Nous sommes tous trois actifs à l'église protestante baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Comme chaque premier dimanche du mois, nous vous proposons un entretien sur la prière. Aujourd'hui, nous vous proposons un partage sur les trois amis du prophète Daniel. Nous verrons ensemble qui sont ces personnes et pourquoi on en parle dans la Bible. On évoquera la conclusion de ce récit avec une vraie surprise. Et comme à chaque fois, nous essaierons d'en tirer une leçon pour nous aujourd'hui. Bernard, en introduction de cette émission, pourriez-vous nous dire un peu le contexte? Qui sont Daniel et ses amis?
Ce sont des jeunes juifs de Jérusalem. Les juifs n'ont pas voulu entendre les avertissements des prophètes, ne se sont pas non plus outre-inquiétés que la partie nord du pays avait déjà subi une déportation. Nebuchadnezzar, le grand roi de l'Empire, écrase Jérusalem et déporte des rescapés jusqu'à Babylone. Entre autres, Daniel, Michaël, Anania et Azaria, qui étaient probablement de familles nobles et instruites. Arrivés en Babylonie, le chef des eunuques leur impose de nouveaux noms. Daniel devient Belshazzar, Anania Shadrach, Michaël devient Meshach et Azaria devient Abednego. Avec eux, il y avait bien sûr d'autres juifs qui avaient été emmenés captifs.
Et alors en quoi ces quatre-là sortent de l'ordinaire?
Alors il nous est dit que le roi avait ordonné que tous les captifs de descendance noble puissent se mettre au diapason de ce qui se vivait dans le palais. Le changement de nom en était un, mais il y avait très certainement aussi les vêtements, comment se comporter, adopter de nouvelles consommations alimentaires, etc. Ainsi, le livre du prophète Daniel nous raconte « Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant la nourriture et le vin de la table royale. Il demanda donc au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur par de tels aliments. Dieu permit que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Mais bon, il faut dire que ce chef a quand même peur que ses quatre soient en moins bonne forme que les autres et qu'il risque de se faire couper la tête si c'est le cas. Mais sur la proposition de Daniel, il accepte de faire un essai de 10 jours. Tu compareras la différence, lui avait-il dit. À la fin de la période, ils avaient meilleure mine et avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris de la nourriture royale. Finalement, l'homme responsable d'eux continuait à écarter la nourriture et le vin qu'on leur fournissait, et il leur donnait seulement des légumes.
Ils étaient végétariens alors, Bernard?
Je suis pas certain qu'on puisse affirmer cela, Jean-Pierre, mais les Juifs ont, encore aujourd'hui, un régime alimentaire assez strict. Pour honorer les prescriptions religieuses, Daniel et ses amis s'abstenaient de manger ce qui était considéré comme impur. D'ailleurs, si vous vous rappelez, dans les Actes des Apôtres, Pierre, qui a une vision, entend, voit des aliments et entend « tue et mange ». Et lui, il répond « Non, moi je ne mangerai pas, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ».
Je vous entends, Bernard. Mais nous n'allons tout de même pas faire une émission sur le régime alimentaire de ces quatre jeunes. Je pensais qu'on allait parler de la prière.
Ah, mais Jean-Pierre, vous êtes impatient. On arrive. Posons les bases, si vous le voulez bien, et voyons ce qu'il est dit. Au terme du délai fixé par le roi, pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis, le chef du personnel amena au roi Daniel, Michaël, Anania et Azaria. Il s'entretint avec eux, et ces quatre-là se révélèrent plus compétents que tous les autres. C'est pourquoi ils entrèrent à son service. Lorsque le roi les interrogeait sur n'importe quel sujet, exigeant en sagesse et en intelligence, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les devins et les magiciens de son royaume.
10 fois supérieurs, hein. Dites donc, ce n'est pas rien.
Non.
C'est que vous avez maintenant éveillé ma curiosité. Daniel?
Nous n'avons pas le temps de tout développer, mais le roi était un personnage très singulier. Un jour, il a fait un rêve dont il ne se souvenait pas, et oblige ses sages et ses devins de lui relater son rêve sous peine de les tuer tous. Voilà le rapport biblique. Daniel raconta toute l'affaire à ses 3 compagnons et il leur demande d'implorer la bienveillance du Dieu du ciel au sujet de ce rêve mystérieux, afin de ne pas être exécuté avec les autres sages de Babylone. Il se trouve que le mystère fut révélé à Daniel pendant la nuit, au cours d'une vision. Daniel se mit alors à louer le Dieu du ciel en ces termes. Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Alors je vous fais remarquer, Jean-Pierre, qu'on parle bien là de prière. Hein. Et on peut même tirer l'enseignement que la prière à plusieurs est efficace. Même si c'est Daniel qui a reçu la révélation, cette dernière a été accordée du fait de la prière à quatre.
En effet, vu sous cet angle, c'est un enseignement important. Alors, quelles conséquences a eu cette prière à quatre, Bernard ?
Daniel a pu donner la révélation au roi, qui lui accorda de grands honneurs. Il le nomma gouverneur de la province de Babylone, et chef suprême d'ailleurs des sages à Babylone. Et c'est sur sa demande de Daniel que le roi confia à ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, des postes importants dans l'administration.
Tout baigne alors, comme on dit.
Ah non, pas vraiment, Jean-Pierre. Tout baignait jusque-là, peut-être, mais la situation va se gâter pour les trois amis. Parce que le roi Nebuchadnezzar fait construire une statue d'or, 30 mètres de haut et 3 mètres de large, énorme. Et il ordonne qu'au son de la musique, tout le monde s'incline jusqu'à terre pour adorer sa statue. Si quelqu'un refuse de s'incliner et de l'adorer, on le jettera dans la fournaise, une fournaise très très ardente. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, il n'en est pas question. Ces trois-là faisaient des envieux et des jaloux. Donc ils ont été dénoncés. Vous savez, la délation, ça date de loin.
Dis donc, ce n'était pas évident ce temps-là.
Mais vous savez, Jean-Pierre, malheureusement, rien n'a changé. Aujourd'hui encore, en 2023, des chrétiens sont dénoncés parfois par leur famille parce qu'ils ont foi en Jésus-Christ et ces derniers sont persécutés, frappés, privés de travail, violés parfois pour les femmes et voire même des gamines. Il arrive que la persécution va jusqu'à la mort. Et tout comme Jésus a été accusé faussement durant son pseudo-procès, aujourd'hui encore, dans certains pays, il y a des dénonciations et des calomnies vis-à-vis des chrétiens. Les conversions sont très mal vues et suivies de véritables difficultés. Il faut être atteint par la grâce pour tenir ferme.
Et alors, qu'est-ce qui leur arrive à ces trois amis ?
Comme vous pouvez vous en douter, Jean-Pierre, Nebuchadnezzar est très en colère et il ordonne qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et puis il leur dit, est-ce que vous êtes prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite ? Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise. Quel dieu pourrait vous arracher de mon pouvoir ?
Les trois vont donc se soumettre, je suppose.
On en est très loin, Jean-Pierre. Car ils répondent au roi, « Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. » Oui, il nous arrachera la fournaise et à ton pouvoir. Mais à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser.
C'est une sacrée confrontation. Ils n'ont pas froid aux yeux, ces trois-là. Tenir tête au roi et déclarer que leur dieu est plus fort, plus puissant que ses dieux à lui. Je suppose qu'il était fou de rage. Ouais. On en parle dans une poignée de secondes.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous sommes toujours dans l'émission Parole protestante. Nous parlons de Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis du prophète Daniel qui ne veulent pas s'incliner devant la statue du roi. Ils le défient même, n'est-ce pas ?
Oui, et on peut relever leur foi dans le Dieu d'Israël, le Dieu du ciel, créateur de l'univers. Et ils lui disent clairement, notre Dieu est capable de nous sortir de la fournaise, rien ne lui est impossible. Et si toutefois il ne nous sortait pas de là, ça ne change rien, nous ne nous inclinerons que devant l'Éternel.
Même pas peur alors, hein ? Ou ce sont des gens jusqu'au boutisme comme on dit ?
Non, je ne crois pas, il est très probable qu'ils ont eu peur, ce qui est légitime, hein, mais ils ont décidé que, quoi qu'il en coûte, comme disait un président, ils n'adoreraient pas cette statue. D'ailleurs, je vous fais remarquer que Jésus a eu la même attitude hein, dans le jardin de Gethsémané. Il était angoissé, il avait peur, il avait franchement pas envie de mourir crucifié. Mais à partir du moment où il avait pris la décision d'aller jusqu'au bout de la volonté de son Père, alors après, il n'a pas dévié du tout. Ce n'est pas une question de jusqu'au boutisme, c'est la conséquence d'une conviction de faire ce qui semble être plus juste aux yeux du Seigneur, quel qu'en soit le prix à payer, Jean-Pierre.
C'est en ce qui s'est passé ensuite.
Oui, et si le récit s'arrêtait là, ce serait dommage. Nebuchadnezzar est furieux d'être ainsi défié. Il exige qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et il ordonne à quelques vigoureux soldats de son armée de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans la fournaise. Le récit mentionne même des détails insolites. Ils sont vêtus de leur costume d'apparat, pantalon, tunique et bonnet. C'est assez précis et on ne sait pourquoi donner un exemple. Lorsque ces vigoureux soldats jettent les 3 amis dans la fournaise, cette dernière est si chaude que les soldats sont tués sur le coup par les flammes ou la chaleur. Shadrach, Meshach et Abednego tombent tous les 3 ligotés au cœur de la fournaise au milieu des flammes.
Le Seigneur ne les a donc pas sauvés comme il l'espérait. C'est un peu tragique, hein, dites donc.
Bah, vous n'y êtes pas, hein, Jean-Pierre. Parce que soudain, le roi Nebuchadnezzar se lève stupéfait et demande à ses ministres « Mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu ?»« Ouais, c'est exact, Majesté. » Et le roi reprit « Mais pourtant, je vois 4 hommes non ligotés et ils se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure et d'ailleurs, le 4e ressemble tout à fait à un être divin. » Et Nebuchadnezzar, s'approchant de l'ouverture de la fournaise, cria « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez !» Aussitôt, nous dit le texte, ils sortirent tous les 3 du milieu du feu. Ceux qui étaient avec le roi s'attroupèrent pour les examiner. Leur corps n'avait pas subi le feu, les cheveux n'étaient pas roussis, les vêtements n'étaient même pas endommagés. Et voilà, ils portaient pas d'odeur de brûlé. Et le détail est important, ils n'étaient même plus attachés par les cordes.
Mmh. Vous avez bien dit que dans la fournaise, le roi et ses serviteurs ont vu 4 personnes et non 3.
Oui.
Oui, oui, et cela s'appelle une théophanie ou christophanie, c'est-à-dire une révélation, une apparition de Jésus. Mais vous savez, ce n'est pas la seule fois que l'on voit la manifestation de Jésus dans le Premier Testament. Il y a quelques années, j'avais fait toute une étude sur les apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament et c'est très, très intéressant et enthousiasmant.
J'aimerais bien vous entendre un jour sur ce sujet. Jésus dans l'Ancien Testament avant sa naissance sur Terre. Incroyable. Mais revenons à notre récit. Qu'arrive-t-il donc à nos 3 amis?
Alors le roi s'écrie « Merci au Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui, pleins de confiance en lui, ont désobéi à mon ordre royal. Ils ont préféré s'exposer aux tortures plutôt que de servir et d'adorer d'autres dieux que le leur. C'est pourquoi je décrète ce qui suit. Si une personne, quel que soit son peuple, sa nation ou sa langue d'origine, parle avec légèreté de leur Dieu, cette personne sera coupée en morceaux et sa maison sera transformée en un tas de décombres. Aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. » Puis le roi leur confie des postes plus importants encore qu'avant.
Ouais, comme quoi. Mais dites-moi, je me permets de vous taquiner un peu, pardonnez-moi. Certains chrétiens diront que c'est une des fables bibliques.
Oui, certains le pensent, mais c'est parce qu'ils ont intellectualisé ou rationalisé la foi. Jésus, en dialoguant avec Abraham, une autre théophanie comme le disait Daniel, lui parle de la future naissance d'Isaac. Impossible, improbable à vue humaine, parce que le couple est beaucoup trop vieux pour cela. Et l'ange, Jésus donc, lui dit « Mais y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire, d'étonnant ou d'impossible pour l'Éternel ?» Ben, la réponse est évidemment non. Et pour notre part, avec Daniel, nous avons expérimenté bien des fois que notre Dieu est le Dieu des impossibilités.
Merci à vous deux d'avoir relaté ce récit. On le trouve dans le livre du prophète Daniel, avez-vous dit, n'est-ce pas?
Oui.
Oui.
Eh bien, c'est parfait. Si je devais retirer 2 idées fortes de notre émission, je dirais que chacun de nous est appelé à être ferme dans ses convictions de foi en Jésus-Christ et que le Seigneur est capable de nous sortir de situations qui nous semblent foutues, inextricables, car notre Dieu est le Dieu de l'impossible.
Sûr.
Avant de poursuivre cette émission, nous proposons une pause musicale avec un chant Shadrach du célèbre Golden Gate Quartet. D'ailleurs, ils l'avaient chanté à Trélazé lors de leur tournée d'adieu. Vous y étiez, je crois, Daniel et Bernard.
Ah ouais, c'était chouette.
Oui, oui.
Restez à l'écoute, notre émission se poursuit dans quelques instants.
Now there were three children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego, took a little trip into the land of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar was the king of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. He took a lot of gold and he made him an idol, Shadrach, Meshach, Abednego. Well, he told everybody when he heard the music of the cornet. Oh yes, they told everybody when they heard the music of the flute. Well, they told everybody when you hear the music of the horn.
Great God said you got to bow down and worship the idol,
Shadrach, Meshach, Abednego.
But the children of Israel would not bow down,
Shadrach, Meshach, Abednego.
You couldn't fool them with a golden idol,
Shadrach, Meshach, Abednego.
I said you couldn't fool them with a golden idol,
Shadrach, Meshach, Abednego.
So the king put the children in the fiery furnace,
Shadrach,
great God, he heaped on coal and red hot brimstone,
Shadrach, Meshach, Abednego.
Made it seven times hotter, hotter than it ought to be. The good book says even burn up the soldiers the king had put there,
Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, whoa!
But the Lord God sent him an angel, and he gave him a couple of wings. Well, he came on down into the middle of the furnace and began to cool the flames. Them children got so happy, they went strutting right through the fire, just laughing and talking about the power of the gospel.
Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, whoa!
Then old Nebuchadnezzar said, hey there, when he saw the power of the Lord.
And they had a big time in the land of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, Shadrach, Meshach, and Abednego.